Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
Bonjour et bienvenue. Nous sommes de retour après une semaine d'absence. Vous êtes en compagnie de René, membre d'une fraternité qui s'occupe de la vie sans l'alcool, une substance très présente dans la société d'aujourd'hui. Malheureusement, par mon cheminement personnel, j'ai développé une dépendance à cette substance et j'ai dû trouver une solution à mon problème et c'est celle offerte par Alcoolique Anonyme qui fonctionne pour moi et pour des millions de membres à travers le monde. Une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool, non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les 12 étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. C'est évidemment la promesse que nous vous faisons, celle d'une vie meilleure et de pouvoir être libéré de cette obsession parce qu'après avoir dépassé une certaine limite personnelle, ce n'est plus le buveur qui décide, mais bien la substance. Et heureusement, nos fondateurs ont trouvé une solution. Aujourd'hui, comme à chaque semaine, on va recevoir un invité, membre de cette fraternité, qui va venir nous parler de sa vie. Un témoignage, comme on appelle, un partage de son vécu, et dans lequel on va connaître les difficultés de son passé, mais surtout son expérience actuelle de relèvement, cette solution qu'il applique dans sa vie. Aujourd'hui, on reçoit Alain, qui arrive avec une belle lumière, une belle présence, et on va apprendre à le découvrir ensemble. Je te laisse la parole.
Merci. Bonjour, mon nom est Alain. Je suis un alcoolique. C'est drôle tout le temps qu'il y avait la présentation au début. J'osais imaginer Bill et Bob, qui se trouvent être les deux fondateurs du mouvement des alcooliques anonymes, regarder un peu ce qui se passe présentement. Puis je veux dire, à savoir que là, présentement, je suis capable de parler à un alcoolique qui souffre, comme moi j'ai souffert aussi. Et je vais réussir probablement, et j'espère, leur joindre. Je pense que Bill et Bob, à ce moment-là, auraient tellement aimé ça, avoir accès à quelque chose du genre. Parce que leur but était d'aider un alcoolique à la fois et ils ont très bien réussi parce qu'il y en a aujourd'hui des millions qui non seulement ne sont plus esclaves de l'alcool, mais qui vivent des vies heureuses la plupart du temps. Disons que ça me touche beaucoup. Je suis ici parce que j'ai bu dans un premier temps, mais avant de boire, je peux dire que toute ma vie, ou à peu près dans ma jeunesse, moi, j'aurais été prêt à faire ma première réunion à 4 ans ou à 5 ans. Je me rappelle très bien que j'avais le sentiment d'être inadéquat, de ne pas être à bonne place, de jamais être assez, de ne pas être correct, et etc. Puis, c'est un sentiment qui m'a suivi une bonne partie de ma vie. Puis, tout le temps faire plus, toujours, pour épater la galerie ou pouvoir me dépasser. En tout cas, présenter quelqu'un, finalement, qui n'était pas moi. Et le moi, ben, je l'ai découvert avec le Fraternité des Alcooliques Anonymes. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que ça a suivi toute ma jeunesse, une bonne partie de mon adolescence, jusqu'à ce que, évidemment, je rencontre une des substances de choix, parce qu'il y a eu plusieurs substances, mais la substance de choix, ça a été vraiment l'alcool, qui a fait qu'à un moment donné, dans les premières fois où j'ai bu de l'alcool, je me suis senti comme libéré. Tout d'un coup, j'avais l'impression que je pouvais être moi-même. J'avais plus le fardeau de penser à ce que les autres pouvaient penser de moi. Je pouvais me permettre d'avoir du plaisir. J'étais plus grand que nature. J'étais tout d'un coup plus intelligent. J'étais plus correct, disons. Puis ça a fait le travail pendant un bon bout. Hein. Puis pour être franc, disons que l'alcool m'a peut-être sauvé la vie pendant un bout parce que, disons que le vouloir mourir, ça a été... je commence souvent mes partages quand même. Il y a deux choses, en fait, que je pensais impossibles. Premièrement, c'était de vivre sans alcool. Puis aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que je le fais. Puis j'ai aussi voulu mourir plus que la moitié de ma vie. Puis aujourd'hui, j'ai comme l'impression que j'aurais même pas assez de temps pour tout faire ce que je veux faire. Fait que c'est comme une personne, on parle d'une transformation chez les alcooliques anonymes. Non seulement que j'ai arrêté de boire, mais j'ai la plupart du temps, je suis heureux. Et deuxièmement, c'est que je vis la plupart du temps aussi sans peur. J'ai l'impression d'être OK la plupart du temps. J'ai l'impression que tout est correct avec moi. C'est une grosse démarche. Mais de toute façon, il faut commencer d'abord avant tout par arrêter de boire pour commencer à voir comment on fonctionne. Mais tout ça pour dire que oui, effectivement, ça m'a suivi. L'alcool a vraiment fait partie de ma vie très, très jeune. Et les autres substances aussi. Ça a été comme, j'appelle ça mon club sandwich de dépendance. C'était une dépendance qui embarquait après l'autre et après l'autre, après l'autre. Tout ça pour vraiment calmer, en fait, ce mal-être et ce malaise-là. Certains l'appelleront peut-être le mal de vivre, qui faisait que j'arrivais, non seulement parce qu'en plus de ça, j'étais workaholic aussi, j'arrivais à très bien fonctionner puis à bien paraître. La seule chose, c'est que tu pouvais me voir sur la rue et penser que j'étais vraiment au-dessus de mes affaires, mais dans le fond, j'avais le goût de mourir, tu sais. Et première chose que je savais, aussitôt que je commençais à consommer, à boire ou quoi que ce soit, ben là, tout d'un coup, la vie était plus agréable. Ça, ça a fait la job pendant un bout, puis c'est la raison pour laquelle j'en parle tantôt, parce que ça m'a permis, je pense, de me rendre un peu plus vieux que je pensais. Ça m'a permis de me libérer, parce que ce désir-là de vouloir mourir était très, très jeune. Ça, ça m'a permis de vivre. La seule chose, par exemple, c'est que le problème avec l'alcool, c'est que ça fait la job pour un bout. Le problème, c'est que en tout cas, pour ma part, je ne pouvais pas arrêter quand ça faisait peu à job. C'est-à-dire que je ne pouvais pas m'arrêter de consommer ou à peu près pas, bien que, comme je disais tantôt, j'étais workaholic, donc je n'ai jamais manqué une journée d'ouvrage, peu importe à l'heure que je me couchais ou que je ne me couchais pas. Puis non seulement que je n'ai pas manqué une journée d'ouvrage, mais en plus de ça, j'ai aussi été très performant. Évidemment, tout ça avec que ce que je parlais là, au début, là, ce sentiment d'être jamais à la hauteur et tout ça. Donc, j'étais un très, très bon employé, malgré que j'arrivais pas nécessairement tout le temps avec les idées très claires, mais je fournissais très, très bien. Donc, ça faisait qu'au bout de la ligne, bon, j'avais du succès, évidemment, professionnellement. J'avais du succès dans tout ce que j'entreprenais, mais ça suffisait pas. Donc, il fallait que je consomme encore plus et encore plus pour avoir l'impression d'être quelqu'un, éventuellement, puis de réussir surtout avoir des accalmies par rapport à tout ça. Je vous cacherai pas non plus que si dans mes 30 années de carrière d'alcoolique, en fait, parce que j'ai consommé pendant 23 ans, j'ai consommé pendant 23 ans. J'ai conduit en état d'ébriété au moins 98 % du temps. Jamais je m'étais posé la question une fois, quand j'étais en état d'ébriété ou sous d'autres substances, quoi que ce soit, si je pouvais être dangereux pour quelqu'un. Je pensais pas aux conséquences. Moi, il fallait que je boive. C'est là que je me sentais bien. C'est là que je sentais que les épaules me relâchaient. C'est là que je sentais que j'étais correct. Puis je me foutais un peu de ce que les autres peuvent penser. Puis ça a été finalement ma bouée pendant un bout. Hein. Donc, j'ai conduit. Puis d'ailleurs, je dis ça souvent pour ceux qui aujourd'hui boivent puis ont la chance d'avoir l'application Google qui disent où est-ce que l'auto est stationné, mais j'aurais bien aimé ça l'avoir quand je consommais parce que souvent je savais pas, je sortais des bars ou quoi que ce soit, puis je n'avais aucune idée où ce que mon auto était. Même ça m'est arrivé très souvent même de revenir le lendemain parce que je la trouvais pas le soir même. Mais merci mon Dieu parce que il n'y a jamais eu d'accident grave en fait qui impliquait d'autres personnes, en fait qu'il n'y a jamais eu d'accident et qui a impliqué d'autres personnes ou que j'aurais pu en fait blesser ou même peut-être tuer quelqu'un comme on entend parfois. Donc, j'ai consommé une très grande partie de ma vie. C'est quand même beaucoup de temps, de 16 ans jusqu'à 38 ans environ. Et ça a été intense. Et ça a été aussi progressif, évidemment. Mais tout le temps en étant performant dans les autres sphères de ma vie. Puis souvent, je dis ça aussi, tu sais, tu pouvais me donner n'importe quel défi. Puis je disais que je le ferais parce que j'avais pas peur, mais je le prenais pas parce que j'avais pas peur, mais j'avais tellement peur que tu m'aimes pas. Donc, je le faisais, puis j'ai réalisé tout ça. Hein. C'est ce que j'ai compris à travers les étapes, évidemment. C'est ce que j'ai compris à travers, bon, le mouvement en tant que tel. Comment la dernière personne que je pensais, que j'ai connue, en fait, ça a été vraiment Alain. Moi, je pouvais te dire tout ce que toi, tu faisais de pas correct. Mais moi, avant de commencer à me regarder, c'était ma hantise, en fait. Je voulais pas me regarder. C'est la raison pour laquelle je réussissais finalement à changer la réalité. avec un drink, deux, trois drinks ou n'importe quelle autre substance, tu sais. Puis j'ai compris aussi pourquoi aujourd'hui, pourquoi en fait j'ai consommé. Parce que justement, c'était presque instantané, tu sais, au lieu de faire face aux choses. C'est d'ailleurs avec le mouvement des alcooliques anonymes que j'ai compris aussi l'idée des... d'un processus. J'ai jamais, un processus, j'ai jamais su vraiment ce que c'était. Ce que j'ai compris, c'est que, en fait, moi, aussitôt que je voulais changer ma réalité, ben, je consommais. C'est pas compliqué. Puis avec les alcooliques anonymes, j'ai compris que, tranquillement, jour à la fois, à ne pas consommer, puis à faire ce que j'avais à faire, puis tout était possible, mais que tout était un processus, évidemment, puis que ça prenait du temps. Je vais vous avouer, ben, franchement, que probablement les alcooliques anonymes, c'est la seule chose, au début de mon rétablissement, que j'ai fait imparfaitement, puis que j'ai continué pareil. Parce que toute ma vie, il fallait que ce soit parfait. Il fallait que ce soit sans anicroche, il fallait que ça paraisse bien. Puis évidemment, je me souviens très bien quand j'étais à l'élémentaire, par exemple, quand j'allais à l'école, j'étais tout le temps bon, sans même étudier, et tout ça. Et évidemment, quand rendu au secondaire, ben là, il a fallu que j'étudie un peu plus, puis c'est là que j'ai commencé à consommer. J'ai tassé ça tout simplement parce que ça me demandait des efforts. Donc, quand il y avait des efforts, puis j'étais pas bon immédiatement, j'étais pas reconnu immédiatement. Donc, je tassais ça.
Alain, si tu veux bien, je vais t'interrompre pour une première pause. J'aime beaucoup ton regard sur tes comportements, plus particulièrement. Tu as bien identifié, j'imagine, après plusieurs années de cheminement, ce sentiment d'inaptitude, ce sentiment d'être inadéquat, de ne pouvoir être normalement et simplement. Et la solution trouvée dans l'alcool, dans à peu près toutes les situations, nous permet, en tout cas moi, me rejoint énormément dans mon cheminement, me permet d'interagir avec les gens, les situations, de performer même au travail ou dans les études. Merci beaucoup pour cette intelligence et cette pertinence de notre commentaire. On revient dans un court instant.
Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe.
En fin de retour, après cette courte pause, nous sommes en compagnie d'Alain. Vous écoutez Un jour à la fois avec votre animateur René. Nous sommes tous membres des Alcooliques Anonymes, passionnés par cette solution qui nous a été proposée, dans laquelle on réussit à vivre dans une société complexe, instable, dans une certaine paix et une certaine sérénité absolument inaccessible. En tout cas, du moins pour moi, je ne croyais pas y arriver un jour. J'ai tellement trouvé la vie difficile avant, mais maintenant que j'ai découvert le mode de vie en 12 étapes des Alcooliques Anonymes, j'arrive à cette paix dont je vous parle. Avant de revenir à l'histoire d'Alain, je vous fais la lecture d'une réflexion de Bill, un court passage de notre littérature AA, aujourd'hui intitulée « Le retour au travail ». Il nous est possible d'invoquer la prétendue malhonnêteté des autres comme excuse plausible pour ne pas remplir nos propres obligations. À un moment donné, certains amis, remplis de préjugés, m'avaient exhorté à ne jamais retourner à Wall Street. Ils étaient convaincus que le matérialisme rampant et la duplicité qui y régnait auraient nui à ma croissance spirituelle. Ce conseil semblait si noble que je suis demeuré à l'écart du seul métier que je connaissais. Quand ma famille s'est finalement retrouvée sans le sou, j'ai soudain pris conscience que j'avais été incapable de faire face à l'idée de reprendre mon travail. Je suis donc retourné à Wall Street et je ne l'ai jamais regretté. J'avais besoin de redécouvrir qu'il y avait beaucoup de gens bien dans les milieux financiers de New York. De plus, il me fallait vivre l'expérience de l'abstinence dans le milieu même où l'alcool m'avait vaincu. Et c'est lors d'un voyage d'affaires affaire à Akron qui m'a permis de rencontrer pour la première fois le Dr Bob. La naissance du mouvement des AA se trouvait ainsi liée à mes efforts pour gagner ma vie. Quelle belle histoire, en tout cas, pour ceux qui la connaissent, on se sent très, très rapproché de nos fondateurs. C'était évidemment un passage de la vie de Bill, qui avait péri dans le matérialisme de Wall Street et qui, grâce à un retour à ce métier, avait eu un voyage d'affaires à Akron et qui a rencontré notre fondateur, notre cofondateur, Bob. Donc, pour revenir au moment présent, celui de la vie d'Alain, qui se retrouvait un peu dans ce passage, le devoir ou l'envie de se dépasser et de se mettre en situation pour apprendre à se connaître et à se définir. Ben, on poursuit ce merveilleux voyage. Alain, on t'écoute.
Oui, bien, pour continuer, merci pour cette lecture-là. À toutes les fois que j'entends parler de Bill et Bob, ça me touche tellement de voir ces deux personnes-là qui ont tellement aidé des millions de personnes dans toutes les fraternités. Il existe au-dessus de 120 quelques fraternités, qui sont un programme en 12 étapes qui sauve des vies. Moi, ça me touche toujours de faire partie de ça. En fait, le côté grandiose de ce mouvement-là, qui est d'ailleurs gratuit, non seulement gratuit, mais qui en fait aide des centaines de milliers, même des millions d'alcooliques, ne serait-ce que par 12 étapes à se rétablir, mais aussi un programme plein d'amour et d'acceptation. C'est toujours touchant d'entendre parler de ça puis de voir d'où ça part, tu sais, c'est 80 quelques années plus tard. Pour continuer mon histoire, je veux dire, tantôt je parlais je parlais du processus. Ça a été la même affaire aussi. J'ai fait des compétitions de natation et de plongeon aussi en étant plus jeune. Tant que j'étais bon, j'ai gagné des médailles sans me forcer. C'était tout le temps sans problème, tout était bien beau. Aussitôt qu'il a fallu que je travaille un peu plus, ça m'intéressait plus. Donc, ça donne un petit peu l'idée comment finalement j'ai consommé. C'est-à-dire que quand il fallait que je mette de l'effort, quand ça devenait un peu trop compliqué, puis s'il y avait un processus dans ça, ça ne m'intéressait plus. Puis je consommais, je changeais ma réalité comme ça aussi rapidement que ça. Et j'ai aimé ça, comme je l'ai dit tantôt, ça m'a sauvé la vie pendant probablement plusieurs années. Et ça m'a permis aussi, évidemment, puis je ne parlerai pas de toutes les autres substances aussi qui ont été dans ça. Moi, j'étais dans des milieux d'affaires, des milieux de la mode et de la musique aussi, donc inutile de vous dire qu'il y avait beaucoup de consommation dans ça. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui ont beaucoup de consommation, mais ça reste quand même qu'à l'époque, c'était très glamour dans ces deux corps de métiers-là, en fait, de consommer. Je veux dire, si tu ne consommais pas, tu ne faisais pas partie de la gang. Et d'ailleurs, tous mes amis, il fallait qu'ils consomment, sinon je n'étais pas intéressé. Et d'ailleurs aussi, la plupart de mes relations de l'époque, il fallait qu'ils consomment parce que c'était ça l'idée. J'avais des vraies amitiés de consommation. S'il y avait de la consommation, on était amis. S'il n'y en avait pas, on n'était pas amis. Et ça me permet aussi de voir aussi comment cette maladie-là de l'égocentrisme, tant qu'à moi, qui est basée sur la peur, comment est vraiment centré sur soi. Moi, je me souviens dans mes grosses années de consommation, puis aujourd'hui, je pense que mes parents me regardent du ciel, puis sont fiers de moi, mais je me souviens très bien quand je consommais à l'époque, c'était ma priorité. Donc, si j'allais au resto avec eux autres, j'espérais qu'ils prennent le bill, puis j'espérais surtout quand on allait dans une place où c'était vin à volonté, qu'ils amenaient au moins 2-3 bouteilles de vin. T'sais. Moi, je voulais garder mon argent pour consommer. Puis aujourd'hui, je m'aperçois que profondément, je suis une bonne personne, mais vraiment, ce qui a dirigé ma vie, c'est la consommation, c'est l'alcool, c'est et les autres drogues. Puis j'en passe aussi. Là, je veux pas dire que je suis parfait aujourd'hui. Quand je me mets à ambitionner sur quelque chose, que ce soit sur l'Internet ou quoi que ce soit, juste que je me vois aujourd'hui. Là, mais à l'époque, c'était comme un peu un mécanisme de défense qui faisait que je survivais dans toutes les situations puis que je réussissais à bien paraître. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ça. Puis j'ai eu des très bons parents qui m'ont aimé puis que j'ai adoré ou qu'aujourd'hui, que je sais que j'ai aimé, mais disons que la consommation était vraiment passée avant n'importe quoi. T'sais. Donc, j'ai consommé 23 ans quotidiennement. Si j'ai passé... Des jours où ce que j'ai pas consommé, c'est probablement parce que j'étais trop magané. Mais à part ça, puis comme je vous dis, à travers tout ça, j'ai tout le temps travaillé. J'ai jamais manqué une journée d'ouvrage. Ça faisait partie. Ça commençait le matin très tôt avec des substances, puis après ça, je buvais un peu plus tard, puis c'était reparti. Puis c'était tout le temps mécanique, hein. C'était rien de pensé. C'était pas genre, je pensais pas, je vais boire, ça va me faire du bien. Je faisais juste tout simplement boire, puis ça me faisait du bien tout court. T'sais, c'était devenu quotidien, en fait. C'était mon mode de vie, tout simplement. Je me suis retrouvé dans des situations où ce que peut-être j'aurais... je me suis retrouvé dans des situations où ce que sobre, je ne me retrouverais pas, évidemment. En fait, ça a été jusqu'à l'enfer. En fait, ils disent dans gros livres, hein, il faut arriver comme des mourants. Et un moment donné, disons que mes amis étaient un peu tannés de m'entendre les appeler en pleurant puis en n'étant plus capable parce que j'avais trop consommé ou j'avais vidé le compte de banque ou etc. Puis, à un moment donné, c'est drôle, un de mes derniers bas-fonds, en fait, j'ai eu plusieurs bas-fonds. J'ai foncé dans le mur une couple de fois, mais un de mes bons bas-fonds, en fait, ça a été à Toronto, en fait, en 1998 à peu près, où j'étais transféré là-bas. J'étais allé en 97, en fait, parce que j'ai été 2 ans là-bas. Puis ça a été 2 ans qui ont été vraiment pénibles. Évidemment, moi, je ne savais pas, parce que je voulais être aimé tellement à tout prix, que je ne savais pas que j'avais des limites. Je ne savais pas que je pouvais me choisir. Je ne savais pas que je pouvais dire non. Puis c'est une des raisons pour laquelle, entre autres, que j'ai consommé. J'étais alcoolique, donc j'ai bu. Mais ce que je veux dire, c'est dessous tout ça, ben, c'est tous les comportements de ne pas mettre ses limites, de ne pas me respecter ou pas de m'aimer assez pour justement dire non quand ça ne fait plus mon affaire. Donc, j'ai enduré une situation pendant 2 ans où j'ai failli laisser ma peau, en fait. Les 3 derniers mois que j'ai été à Toronto, d'ailleurs, ça a été un 2 ans de beaucoup de travail. C'était ouvert 7 jours semaine, donc je m'en occupais, j'étais toute seule là-bas. Et je consommais beaucoup. Puis en même temps, j'étais tout le temps au poste. Puis même magané comme je l'ai été, ça a été les meilleures années qu'ils ont jamais eues. Aussi drôle que cela puisse paraître. Mais on est des persévérants, les alcooliques. Mais j'ai failli quand même y laisser ma peau. Donc, je peux raconter peut-être les derniers 3 mois que j'ai passé à Toronto, qui étaient quand même très difficiles. J'ai consommé les derniers 3 mois. Je pourrais commencer à n'importe quelle heure de la journée, puis je vais commencer 1 heure de la journée. Mais ça a été le jour de la marmotte pendant 3 mois. Plein de consommation, beaucoup de travail aussi, sexe aussi à volonté. Tout ce qui était ambitionné, là, tu sais, c'est tout ou pas pantoute. Donc, c'était tout dans ce cas-là. Beaucoup d'alcool, de la drogue aussi à l'époque, et etc. Et tout ça, tout simplement parce que, bon, évidemment, parce que je suis alcoolique, comme je l'ai dit, mais aussi, peut-être que ça aurait été différent, j'avais tout simplement été capable de dire non, écoute, ça ne me tente plus faire ça, tu sais. C'est là que, c'est, en fait, c'est pas là, mais c'est avec le recul maintenant que je peux voir comment je fonctionnais, qu'est-ce qui se passait en dedans de moi. Puis la solution la plus rapide, c'était tout le temps la consommation pour tasser tout ça, pour continuer évidemment à être aimé, à être apprécié, à être avoir de l'approbation. Donc les 3 derniers mois, ça a été 7 jours sur 7. Je me souviens très bien, j'arrivais au travail, par exemple, j'étais tout seul dans une boutique à l'époque, j'arrivais là, puis je me levais le matin, ou à peu près, j'avais déjà commencé les Valium, il était à peu près 5 heures du matin, pour essayer de dormir un peu avant de m'en aller travailler, puis je m'endormais un peu, puis là, tout d'un coup, les oiseaux se mettaient à chanter, puis j'avais le goût d'étirer, évidemment, et là, je me levais, je me regardais dans le miroir, magané comme ça se peut plus, j'avais le goût de mourir. Je ne pouvais pas croire qu'encore une fois, je m'étais encore mis les 2 pieds dans ça, bien que la veille, je m'étais dit non, c'est pas vrai. T'sais. Puis ce matin-là, tous les matins, je me suis dit, c'est la dernière fois que je consomme, je ne suis plus capable. Puis je me regardais dans le miroir, très souvent, je saignais du nez, je prenais une douche. Puis à l'époque, je portais un habit à 2 000 $ parce que c'est ce que je représentais à l'époque. Puis je m'en allais à Toronto travailler, puis tout le monde pouvait penser en me regardant, En me regardant sur la rue, ils pouvaient penser que j'étais vraiment au-dessus de mes affaires, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais le goût de mourir. J'avais le goût de me désintégrer, tout simplement.
Alain, je te remercie beaucoup pour cette portion de ton parcours. Elle ressemble à l'histoire de plusieurs personnes en souffrance. Hein? Une dépendance à cette substance, il n'y a plus rien qui fonctionne avec, il n'y a plus rien qui fonctionne sans. On est pris dans ce tourbillon. Pourtant, à chaque jour, on fait le vœu de ne pas recommencer, mais malheureusement, la maladie s'est installée. C'est ce que nos fondateurs ont découvert. Ce n'est plus une faiblesse de volonté. C'est malheureusement un réflexe instantané d'une obsession mentale doublée d'une allergie physique. On revient dans un instant.
Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
C'est le moment de la suite de notre émission. Vous écoutez Un jour à la fois en compagnie de René et Alain. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on est à mi-parcours. On a fait un beau survol de la vie passée de Alain, évidemment celle de la surconsommation, du développement de la dépendance aux substances, à l'alcool et évidemment à une vie complètement désorganisée. Où plus rien ne va. On consomme pour vivre et on vit pour consommer, malheureusement. C'est le sort qui attend beaucoup d'entre nous dans la consommation de cette substance. Avant de poursuivre, je vous informe de notre site internet, le unjouralafois-émission.org. Un site qu'on tient à jour où on ajoute de nouveaux fichiers de partage archivés pour écoute sur tous vos appareils intelligents. De centaines de membres se servent de ce médium pour rester en contact avec le mode de vie, entendre de belles histoires comme celle d'Alain qui va s'y retrouver dans quelques semaines et ainsi, grâce à la technologie Internet, pouvoir rester connecté à notre mode de vie, comme je le disais. Sur ce site, il y a notre adresse courriel où tu peux poser des questions, faire des commentaires et provoquer une visite, une rencontre dans nos studios pour venir toi aussi partager ton histoire de rétablissement. C'est du moins ce que l'on souhaite, une invitation que l'on te lance. Donc, Alain est, je crois, sur le point d'atteindre un tournant de sa vie, un bas-fond ou une prise de conscience. On poursuit avec son histoire. À toi la parole.
Donc, pour continuer, évidemment, bon, je parlais de Toronto tantôt, donc je marchais sur la rue, puis le monde, évidemment, devait penser que j'étais tout à fait au-dessus de mes affaires, ce qui n'était pas le cas. Au contraire, j'avais vraiment le goût de mourir, ou à peu près, parce que je vivais plein de honte, culpabilité, parce que je m'étais dit à maintes et maintes reprises que c'était la dernière fois que je consommais comme ça. Puis première chose que je savais, ben à 5 heures, quand je reprenais du jus un peu, puis après un café, puis après avoir mangé, etc., ben première chose que je me disais, ben, il me semble qu'un drink, ça ferait du bien à 5 heures. Puis je repartais encore une fois. Évidemment que je rencontre qu'une petite partie là, de ma vie, c'est 23 ans de consommation, mais je pense que c'est important de raconter le dernier bout. Donc, un moment donné, moi, j'arrivais à la boutique, on ouvrait à 10 heures, puis normalement, je pleurais de 10 heures jusqu'à 11h30 environ, parce que j'avais pas de clients de toute façon. Puis, j'étais vraiment déprimé, déçu de moi-même, plein de culpabilité, de la honte aussi, d'avoir consommé encore quand moi, je voulais pas, de me sentir vraiment impuissant face à ça. Puis, à un moment donné, j'ai pris le téléphone parce que mon frère était dans la fraternité. Puis, je l'ai appelé, puis j'ai dit que je pense que j'avais des problèmes d'alcool et de drogue aussi, et d'autres problèmes, évidemment. Donc, il dit, ben c'est quand tu viens à Montréal, je vais aller te chercher. Fait que j'ai dit, ben cette semaine. Il dit, essaye de pas consommer jusqu'à vendredi quand tu vas arriver, puis on va aller faire un meeting ensemble. Je l'ai écouté, c'est la première fois vraiment ben, que j'avais le goût d'écouter quelqu'un d'autre, parce que je voyais bien que mon affaire, ça fonctionnait pas. Puis je suis venu à Montréal, finalement, puis il est venu me chercher au train, on est allé faire un meeting. Évidemment, vous comprendrez que moi, je vendais des habits à 2 000 $ et plus. On s'en va faire mon premier meeting dans Chalaga Maisonneuve à l'époque. Puis c'était un soir assez particulier, en fait. Fait que moi, j'étais vraiment sur le top, dans l'arrogance, évidemment, dans l'ego, etc. Puis je me souviens pas beaucoup de ce qui s'est passé dans cette réunion-là, mais ce que je me souviens, premièrement, de deux affaires. Premièrement, c'est que il y avait des gens qui avaient le sourire, il y avait du monde qui avait, puis j'ai entendu des histoires là, puis ces gens-là avaient de la lumière dans leurs yeux. J'ai entendu aussi, je sentais que ces gens-là aussi étaient là, pas parce qu'ils étaient obligés d'être là, ils avaient arrêté de consommer parce qu'ils avaient le support, puis ils avaient le goût de nouvelle vie, puis moi c'est ce que j'avais le goût. Puis la troisième chose que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui est allé pour le jeton du nouveau, qui moi c'est le mot qui me reste de ce temps-là, puis que j'utilise d'ailleurs régulièrement parce que, bon, le cerveau humain, la nature humaine, c'est long à comprendre des fois, mais cette personne-là a dit, à faire la même affaire, tu vas obtenir le même résultat. Ça m'a vraiment poussé en bas de ma chaise parce que j'avais jamais compris qu'en 23 ans de consommation, qu'à continuer à faire la même affaire, j'obtenais le même résultat. Et j'ai senti un moment d'espoir en étant là dans ce groupe-là des alcooliques anonymes, un moment où ce que je me suis dit, bon, il y a peut-être espoir pour moi. Puis dans le fond, je voyais les gens qui étaient là, puis moi, j'avais le goût d'avoir cette lumière-là qu'il y avait dans les yeux, qui avait l'air heureux la plupart, en fait. Donc, je suis retourné, évidemment, à Toronto. J'ai fait quelques meetings ici avec mon frère. Puis, je suis retourné à Toronto. J'ai fait une couple de meetings. Vous comprendrez que j'étais déjà encore pas mal magané de mes 23 ans de consommation. Fait que, tranquillement, je me suis remis à avoir un petit peu plus de gaz. Je me suis retombé dans mon ego. Je suis retombé dans mon arrogance. Je suis retombé à penser que j'étais plus top que les autres, puis meilleur que les autres. Puis, à un moment donné, j'ai fait du meeting à Toronto. Puis, j'ai commencé à trouver ça quétaine un peu. Et je me suis dit, moi, m'arranger tout seul. Oh, yarb, les AA. Et, évidemment, j'ai réussi quand même à arrêter de consommer mes drogues de choix parce que j'ai switché sur d'autres dépendances. Mais tout ce qui était alcool et drogues plus fortes, je n'ai pas consommé pendant un an. Jusqu'à ce qu'un moment donné, je me dise, wow, t'es bon, Alain, allons fêter ça. Donc, je suis allé fêter ça et je suis retombé aussi bas, sinon plus profond. Comme on dit souvent dans AA, quand t'es dans ton trou puis tu l'as creusé jusqu'au fond, ben, il se remplit pas nécessairement. Tu retombes aussi profond, puis c'est exactement ce qui est arrivé. En fait, moi, ça m'a pris, en fait, une arrestation que je vais... Ça a été vraiment ma dernière cuite que je vais vous compter. Mais le processus est déjà commencé, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, je pense, dans tout ça. Puis moi, je suis un gars de tête dure. Je ne sais pas si pour vous autres, mais en tout cas, moi, je suis un gars vraiment qui a la tête dure. Puis il faut que je comprenne de tous les sens. Puis il faut que ça frappe très, très fort. Et je me retrouve finalement à revenir au bout de mon année, à consommer, puis etc. Puis tout d'un coup, je me mets un peu à reprendre ça un peu plus sérieusement jusqu'à ce qu'un moment donné, je me retrouve dans un party d'un de mes amis qui fêtait ses 40 ans. Puis j'avais un auto, finalement, j'avais pas d'auto à l'époque, puis c'était à Rougemont. Et j'ai emprunté l'auto de mes parents. Puis ma mère, elle m'avait dit, Alain, consomme pas. C'était le 24 juin. Elle dit, consomme pas, là, parce qu'il y a du monde, il y a plein de policiers, des barrages policiers, etc. Je dis, non, inquiète-toi pas, j'ai pris mon jeton du nouveau, ça fait 3 jours, je consomme plus. Évidemment, en bon alcoolique, en m'en allant là-bas, j'ai vu un dépanneur, je me suis dit, ça serait quoi la différence entre reprendre un jeton demain, ou tout simplement, je suis arrêté au dépanneur, tout simplement, m'acheter un pack de 6, quand tout le monde, finalement, avait des caisses de 24, puis il y avait du stock en masse. Et je me suis retrouvé de plus belle encore à être sur le party jusqu'à ce que quelqu'un parle justement de la substance en fait qui me réveillait quand je consommais. Et puis il dit, il me semble que ça serait bon de se réveiller un peu. Fait que j'ai dit, embarque dans l'auto et on va aller à Montréal. On est à Rougemont. On va aller à Montréal chercher ce qu'il faut pour se réveiller, puis on va revenir au party. Je savais très bien que repartir à Montréal, je ne reviendrais pas, mais c'est vraiment la première fois, cette fois-là, que j'ai vraiment senti que je pouvais être dangereux en conduisant. J'ai jamais pensé à ça, que je pouvais blesser quelqu'un ou tuer quelqu'un en conduisant, mais c'est la première fois que j'étais assis avec quelqu'un dans l'auto, je me suis dit, wow, Alain, tu commences à être dangereux. on est embarqué dans l'auto, puis bon, pour ceux qui connaissent Rougemont, il n'y a pas tant de rues que ça, mais j'ai jamais trouvé l'autoroute. Et il y avait un auto qui était stationné qui pouvait me dire à ce moment-là où était l'autoroute, puis c'était un char de la SQ. Je suis allé me stationner à côté, puis je lui ai demandé c'était quoi le chemin. Il voyait bien que je voyais double, hein, je conduisais avec un œil, en fait. Et il a bien vu que je consommais, que j'étais très avancé, puis il m'a demandé si j'ai consommé. J'ai dit, bah, peut-être une bière ou deux, mais en tout cas, il m'a demandé de débarquer. J'ai essayé de souffler dans la ballonne par trois fois. La ballonne, elle me sortait de la bouche tellement j'étais faite. Et finalement, il a pris la machine, il a saisi les écharpes, sont partis avec. Puis, en bon alcoolique, on est allé cogner sur une porte. Il y a quelqu'un, je pense, qui est venu nous mener. Puis, tu sais, les conséquences n'étaient pas importantes. C'est fuck le char, on s'en retourne au party, puis je m'en vais là-bas. Fait que, on retourne au party, on continue le party, ça, comme si de rien n'était ou à peu près pas. La seule chose, c'est que moi, le mouvement des alcooliques avait commencé à rentrer en moi tranquillement. J'avais fait du meeting, mais bon, c'était on and off. Jusqu'à ce que le lendemain matin, je me réveille dans une tente. Il faisait à peu près 95 dans la tente. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris des brosses puis se réveiller dans une tente quand il fait 95, mais c'est pas agréable. Puis, première chose que j'ai faite, je me suis mis à genoux. J'ai dit, bon Dieu, aide-moi, moi, je suis plus capable. À ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait de quoi qui venait de se passer. J'ai compris que je n'étais pas capable de faire ça tout seul. C'était plus fort que moi. L'alcool était plus fort que moi. J'avais besoin d'aide. Premier mot, j'ai dit, c'est bon Dieu, aide-moi. Puis tout d'un coup, c'est à partir de cette journée-là, le 24 juin 1999, que mon aventure avec les AA a commencé. Non seulement l'aventure avec les AA, mais moi, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis né le 24 juin 1999, où j'ai commencé vraiment une démarche sur la seule personne à qui je peux avoir un contrôle dessus, c'est moi-même. J'ai commencé à prendre ça au sérieux, puis je peux dire que je me suis investi au bout. T'sais. J'avais pas le goût de mourir dans un premier temps, puis j'avais le goût d'avoir une belle vie. J'étais tanné de vivre avec les masques. J'étais tanné de pas être moi. J'étais tanné de pas être... de me sentir jamais à correct ou quoi que ce soit. Puis je savais que dans ce programme-là, j'ai entendu des partages. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai entendu des dizaines de milliers de partages parce que j'ai eu des boosts que j'ai fait deux meetings par jour. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, je me suis investi sur la personne la plus importante. Puis la personne avec qui je vais être avec toute ma vie, c'est moi-même. Le programme des AA, de ce que je voyais, du monde qui partageait l'espoir, qui partageait leur succès en rétablissement, ben moi, c'était ça que je voulais, puis je les écoutais. C'est la première fois de ma vie que j'écoutais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter de consommer une journée à la fois, puis possiblement toucher au bonheur?
Alain, merci beaucoup de cette profondeur que tu viens de nous offrir. Un contact conscient avec soi-même, une ouverture sur l'incompréhensible, sur le spirituel, un abandon de soi à genoux dans une tente. Quel beau témoignage, quelle belle preuve d'humilité, de s'avouer vaincu. Et le mot que je retiens, évidemment, c'est celui que j'y arriverai pas tout seul. Malgré une belle éducation, malgré de belles forces morales, malgré une intelligence, malgré toutes les forces offertes gratuitement par Dieu, par la vie, cet être humain ne pouvait pas ou venait de prendre conscience de son incapacité à diriger seul sa vie. On revient dans un instant.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire,
j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
C'est le moment de conclure notre émission. Un parcours encore très riche en expériences et en énoncés. Un endroit où on vous permet, cet endroit qui est notre émission hebdomadaire, un endroit où on se permet de toucher à la souffrance pour stimuler l'éveil, la prise de conscience et l'action. Poser action sur ce mal-être, sur cette condition. Alain l'a très bien mentionné avant la pause. la seule personne sur laquelle j'ai du pouvoir, la seule situation, le seul événement dans cette vie qui me bouscule, ben c'est moi-même. Et à partir de là commence un travail assez impressionnant, assez important. Et je crois que Alain, il réussit très bien. On va conclure avec son partage dans un instant. Si Alain a stimulé en toi le désir de changer, de te questionner, ben, on te suggère le site internet de aa-québec.org où un membre des Alcooliques Anonymes bénévole attend ton appel. Nous sommes disponibles de 9h à 10h le soir, je crois. Sur ce simple appel, peut-être une lumière éclairera ton présent difficile. Il y a aussi sur ce site la liste des réunions près de chez toi, les numéros d'aide de ta région et une foule de réponses sur la structure de ce bel et grand organisme qu'est Alcoolique Anonyme. Donc, Alain, on est pendu à tes lèvres. Qu'est-ce qui se passe avec toi maintenant?
Premièrement, dans un premier temps, que moi, j'ai jamais pensé que je méritais ce que je vis aujourd'hui dans un premier temps. T'sais. Donc, c'était dur de même imaginer la vie qui m'attendait après. Puis si tu m'avais dit où je serais aujourd'hui, v'là 20 ans, quand j'ai commencé avec les Alcooliques Anonymes, j'aurais dit « t'es malade, c'est impossible ». Mais comme je l'ai dit, avec ce programme-là, au-dessus d'arrêter de consommer, ben je me retrouve aujourd'hui à avoir un mode de vie qui m'amène à vivre le moment présent puis à faire confiance à la vie ou à une puissance supérieure ou appelle-les comme tu veux. Moi, ça a changé. Je peux te dire que le poêle m'a dressé ses bras quand j'ai entendu Dieu à plusieurs reprises au début. Donc, je l'ai appelé la vie, je l'ai appelé l'univers, je l'ai changé. Puis à un moment donné, c'est devenu Dieu pour moi. Et ça peut être le groupe aussi. Hein. Tout l'amour qui est là. Moi, je me souviens, j'arrivais dans des réunions puis premièrement, me faire appeler par mon nom, Alain, là, me dire « Alain, je suis content que tu sois ici ». Déjà ça, je trouvais ça génial. Puis de comprendre que, tu sais, il y a personne qui a avantage à ça. C'est juste un alcoolique qui va en aider un autre, qui veut y passer le message que, écoute, c'est possible de pas consommer aujourd'hui. Non seulement que c'est possible de pas consommer une journée à fois, avoir un peu de temps, mais c'est possible d'être heureux aussi en plus de ça, sans consommation. Moi, j'ai acheté ça. Puis j'ai décidé à mettre dans ce mouvement-là parce que je m'étais dit, en fait, à 38 ans, j'avais commencé aussi à voir psy aussi. Évidemment, il faut aller voir aussi toutes les autres ressources si c'est possible pour s'aider. Moi, je m'étais dit, c'est pas vrai que je vais passer la deuxième partie de ma vie comme j'ai passé la première, parce que sinon, ça vaut pas la peine, tout simplement. Puis j'ai pris la décision de m'occuper de moi. J'ai pris la décision de faire ce qu'il fallait faire, tout simplement. Puis pourtant, aussi peu compliqué que les étapes des AA sont, c'est tellement simple, mais dans le fond, c'est souvent, dans mon cas, c'est souvent penser que c'est l'orgueil, puis c'est un programme d'humilité. Hein. Moi, tout ce que j'ai compris, là, quand je me suis mis à genoux, puis j'ai dit « bon Dieu, aide-moi », puis ça aurait pu être « l'univers, aide-moi », c'était juste de dire que moi, je n'ai pas la réponse. Y a-tu quelqu'un qui peut me la dire? T'sais? Puis là, tout d'un coup, mon esprit s'est mis à s'ouvrir, puis là, j'étais réceptif. On appelle ça « coachable ». On est enseignable, en fait, une fois un peu l'esprit ouvert, même si c'est pas d'un gros, un petit quart de pouce, là, déjà, c'est déjà pas mal. Puis là, tranquillement, l'amour rentre dans ça, puis ça commence à s'installer. T'sais. Ce qui est fantastique des Alcooliques Anonymes, c'est gratuit, c'est plein d'amour. Personne qui veut rien à personne, veut juste t'aider. Quelqu'un va venir t'aider ou va venir essayer en plus de te transmettre les messages. C'est ça que j'aime des Alcooliques Anonymes. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est toutes des suggestions. Et d'ailleurs, ils disent dans 12e étape, nous allons essayer. Moi, j'aimais ça. Je ne suis pas obligé de rien faire. Non seulement je ne suis pas obligé de rien faire, je ne suis pas obligé de le faire parfaitement. J'ai juste à essayer de passer le message comme je suis en train là, de le faire. J'essaye de le passer le message par mon expérience, puis par mon enthousiasme aussi, puis pour tout l'amour que j'ai pour un alcoolique qui souffre présentement, parce que j'étais là, puis j'espère, je souhaite en tout cas que si tu es là puis que tu souffres, moi, je te dis qu'il y a de l'espoir. T'sais. Mais, bon, il y a du travail à faire. Puis ça se limite à pas grand-chose. Hein. Ça se limite à tout tasser, puis finalement, à mettre le programme dans ta vie. Pourtant, dans notre société, on pense tellement que c'est le pouvoir qu'on a vraiment qui fait toute la différence, mais dans le Alcoolique Anonyme, c'est pas comme ça marche. T'sais. Ça marche vraiment avec le drive, en fait, du programme, avec le drive des membres, le parrainage, les lectures, toute l'expérience des alcooliques qui s'en sont sortis puis qu'aujourd'hui ont une belle vie, se retrouvent finalement avec un coffre à outils qui est absolument incroyable. Tu sais, moi, avant d'arriver avec les Alcooliques Anonymes, j'avais zéro rêve. Tous les rêves que j'ai eus, là, c'était au bout d'un bar, puis ou à peu près, ben je dis souvent parce que j'avais une obstinance. Moi, mon rêve de choix à l'époque, c'était aller en Colombie, tu sais. Mais aujourd'hui, j'ai fait du meeting partout parce qu'il y en a partout. J'ai habité en Europe. Je suis allé en Europe 3 mois. Je suis resté 4 ans parce que je voulais faire du meeting en Europe. J'ai habité à Barcelone. J'ai habité Paris, à Bruxelles. Ça a été dans ma première année, en fait, de rétablissement que j'ai décidé parce qu'évidemment, j'ai encore une tête dure. Vous m'avez dit, ils m'ont dit, fais pas de gros moves la première année. Évidemment, moi, j'ai tout vendu mes meubles. J'ai décidé de m'en aller en Europe. Mais je m'en allais pas faire le party. C'était ça la différence. Moi, je m'en allais faire du meeting en Europe. J'avais le goût. J'avais pogné le goût de vivre avec vous autres. J'avais pogné le goût de... Je savais que tout était possible. Moi, je te le dis, là. Si tu souffres aujourd'hui, là, puis tu penses qu'il y a rien de possible, moi, je te le dis, tout est possible. Tout est possible. Aujourd'hui, j'ai une vie, tu peux même pas croire. Tous mes rêves se sont réalisés, même ceux que j'avais pas, tu sais. Quand t'es ouvert à ce mouvement-là, il y a une magie qui s'installe. Tu rencontres les bonnes personnes. Tu rencontres du monde qui sont pas avec toi parce qu'ils ont besoin de consommer. Tu rencontres du monde qui veulent juste t'aider à devenir une meilleure personne puis à t'en sortir. Mais ça me ramène exactement à où j'étais au début. Hein. Moi, pour un gars qui a jamais compris les processus, les Alcooliques Anonymes, c'est la seule chose que j'ai faite dans ma vie où que je n'ai pas été parfait puis que j'ai persisté. C'est la seule chose. Parce que dans mon cas, moi, c'est une question de vie ou de mort. Et en plus, c'est pas difficile, là, je veux dire, c'est pas un calvaire pour moi de pas consommer, bien au contraire. J'ai tellement de dividendes avec tout ça. J'ai un cercle d'amis qui est absolument formidable, du monde qui... Tu sais, on pense, là, les alcools, là, qui vont arrêter de boire sont plates, là, bien au contraire. C'était du monde de party qui sont encore sur le party aujourd'hui, juste qui sont de bonne humeur puis sont avec ou une puissance supérieure ou sont dans gratitude. D'ailleurs, c'est une chose qui fait partie de ma vie quotidiennement aujourd'hui. La gratitude, ce que je n'avais pas quand je consommais, j'étais tout le temps dans le manque, tout le temps dans le manque. J'étais jamais content de ce que j'avais. Puis aujourd'hui, ben, je me sens dans l'abondance parce que j'ai des rêves, j'ai des plans, mais je me sens dans l'abondance parce que je suis dans la gratitude avec ce que j'ai, ne serait-ce que de pas vivre les conséquences de l'alcoolisme et ne pas vivre les conséquences aussi des comportements qui viennent avec, et etc. Aujourd'hui, ma vie est vraiment différente. Premièrement, j'ai changé de métier 2 fois, 3 fois, en fait, depuis que je suis avec vous autres. Puis c'est tous des métiers que j'ai adorés. C'est des métiers que j'ai pas fouillé fort pour les avoir. Bien au contraire, puis ça a été des carrières qui ont été intéressantes, évolutives, payantes. Mais à un moment donné, je me suis senti que j'avais fait le tour, puis il y avait de quoi d'autre qui se présentait. Puis aujourd'hui, c'est comme si j'avais tout ce qu'il faut aujourd'hui pour aller jusqu'au bout de mes rêves. Puis c'est une chose que je dis pas trop souvent parce que la plupart de mes amis autant que je voulais mourir, autant que j'avais peur de mourir quand j'étais jeune, autant aujourd'hui, j'ai jamais touché à une gratitude puis à me sentir rempli comme ça. Le fameux trou vide là, qu'on parle souvent des alcooliques, le trou qui est au centre du plexus solaire là, qui est vide, ben moi, la plupart du temps, aujourd'hui, il est rempli. Puis pourtant, 365 jours, 24 heures sur 24, il était vide toute ma vie. Puis aujourd'hui, ça m'arrive qu'il soit vide peut-être quelques heures par mois, tu sais. Fait que moi, aujourd'hui, dans gratitude, à tous les matins, je me lève. J'ai la chance d'avoir un jacuzzi. Je vis en campagne sur le bord d'une rivière à 50 minutes de Montréal. Moi, je me lève le matin, je fais mon café, je m'en vais dans le jacuzzi. Je vais méditer, je fais mes lectures, je vais faire ma marche, je commence ma journée, je fais des affaires que j'aime. Puis la journée que ça me tentera plus de faire, mais je vais faire autre chose. Parce qu'avec Alcoolique Anonyme, je peux faire n'importe quoi. Tant que je consomme pas, j'ai tout le support nécessaire, puis en vivant, surtout juste pour aujourd'hui, puis en faisant confiance, que que Dieu ou l'univers ou la vie prend soin de moi, parce qu'aujourd'hui, après 20 ans, pas qu'on, je m'aperçois, je suis capable de le voir aujourd'hui, toutes les œuvres que la vie a fait dans mon quotidien, ben aujourd'hui, je suis un croyant de ça, puis moi, je n'ai qu'à m'occuper d'une journée, c'est aujourd'hui. Le reste, je fais confiance tout simplement à la vie qu'elle va m'amener, où elle m'a amené, parce que, je vous le cacherai pas, la dernière place où ce que je voulais être, c'est dans un sol d'église ou dans une salle de meeting, c'était trop bas pour moi, c'était pas assez brillant, c'était pas assez... Puis aujourd'hui, la première place où ce que je veux être, c'est avec mes amis qui sont en rétablissement, où il y a vraiment possibilité d'évoluer.
Alain, c'est une conclusion très forte, très énergique. J'ai envie de poursuivre mon développement personnel, d'appliquer de nouvelles actions, très motivant, très positif. Merci infiniment. Ben, ce que je retiens de ces dernières paroles, c'est évidemment la victoire venue de la défaite, l'abandon complet. J'ai aimé le passage où tu as dit « c'est pas très compliqué, les 12 étapes à or ». Ben, dans le fond, c'est de tout lâcher, de tout abandonner et de se reconstruire petit à petit avec cette nouvelle ouverture d'esprit. J'ai adoré ton passage à l'émission, un partage à écouter et à réécouter sur notre site internet où il sera déposé dans plusieurs semaines. Évidemment, un gros merci encore à Alain, à toute l'équipe d'Un jour à la fois qui travaille bénévolement à préparer cette magnifique émission. Un merci tout spécial à tous nos auditeurs, auditrices et visiteurs sur nos sites internet. Merci tout spécial à nos partenaires radio pour leur diffusion à travers le Canada français. Et un merci de la part de votre animateur, René, qui adore cette implication et ce moment passé avec vous chaque semaine. Au revoir.